Pâques approche, c'est dans 10 jours et quand on pense à Pâques, on pense au chocolat. Mais on peut aussi, on doit surtout penser à la boulangerie et la pâtisserie, car oui, elle a sa part à prendre dans cette belle tradition. Et pour en parler ce matin, quelqu'un qu'on aime ici à France Bleu, Éric Marché de Pain, Beurre et Chocolat, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous ce matin.
Merci de m'avoir invité.
Et vous, chez vous, racontez-nous ce que vous faites pour Pâques, niveau cuisine, quel dessert particulier est-ce que vous préparez pour toute la petite famille. 02 40 73 6000, c'est Alexandre qui vous accueille ce matin.
France Bleu, Loire-Océan.
La vie en bleu,
c'est bleu.
Simons.
Alors c'est ce que je disais, on pense souvent aux petits lapins au chocolat, aux petits œufs au chocolat, mais en fait la tradition de Pâques, et si on remonte un peu plus dans le temps, c'est surtout de la boulangerie, de la pâtisserie, notamment Éric Marché.
Oui, essentiellement. Le chocolat est bienvenu après, puisqu'il a été découvert beaucoup plus tard dans la tradition culinaire. Et donc au départ c'est surtout des gâteaux, des brioches, avec une symbolique avec l'œuf. Qu'on retrouve surtout dans les pays de l'Est, qu'on continue d'ailleurs à retrouver dans des œufs décorés.
D'accord.
Donc aujourd'hui, on continue de travailler ça en boulangerie avec des brioches, des spécialités qu'on va retrouver plus spécialement à Pâques.
Alors pourquoi la brioche, justement ?
Bah parce que c'est un moment aussi où on a fini le carême, on est arrivé dans des périodes aussi où on peut recommencer à manger un peu plus gras, entre guillemets, et donc la brioche avec du beurre, avec des œufs, puisque les poules recommencent à pondre dans ces périodes-là. Et donc, la brioche est la bienvenue au moment de Pâques. On a quelque chose de plus léger aussi qu'un gâteau ou plus sec. Voilà, on est sur des choses plus légères.
Tout tourne autour de l'œuf, en fait, à cette période de Pâques.
Et tout tourne autour de l'œuf à Pâques. C'est pour ça qu'on retrouve aussi dans le jardin. On ne sait pas d'où ils viennent, mais bon, il paraît que les cloches les déposent.
C'est ça, ça apparaît comme ça. Cette tradition, donc, j'imagine qu'elle diffère un petit peu, enfin, ou en tout cas, elle différait selon les régions où on se trouvait à l'époque, même si la base reste la même. C'était différents types de brioches, différents types de pâtisseries qu'on pouvait retrouver.
Oui, il y avait beaucoup de symboliques qu'on va retrouver, par exemple, dans l'agneau pascal, avec des moules spéciaux qu'on va retrouver plutôt dans l'est de la France. Des moulages aussi en Italie avec la colomba, donc c'est un moule en forme de colombe, avec une spécialité qui va se rapprocher un petit peu du panettone, une pâte un peu plus ferme que le panettone, mais avec la même base. C'est-à-dire avec des jaunes d'œufs, avec du beurre, avec des écorces d'orange. Dans les pays de l'Est, on va retrouver également le kulitch en Russie, qui ressemble beaucoup, même trait pour trait, au panettone. Le babka, qui est une spécialité aussi des pays de l'Est, avec qui est une brioche un peu plus ferme avec des écorces d'orange. La mouna, qui nous vient plutôt d'Afrique du Nord aussi, avec des zestes de citron, qui est une brioche assez serre. Assez serre, ça ressemble plus à un pain doux.
D'accord.
Qu'à une brioche, et puis avec des gros morceaux de sucre dedans. Voilà, c'est ce genre de spécialité.
Au-delà de la région de France, c'est vraiment, ça diffère aussi partout dans le monde.
Oui, dans tout le monde occidental, plus particulièrement dans les pays qui ont qui sont attachés à la religion catholique, en fait, puisqu'on va retrouver toute la symbolique de cette période-là. En Angleterre, on va retrouver les hot cross buns que je vous ai amené avec la croix blanche au milieu, qui est brioche avec beaucoup d'épices.
C'est vrai qu'on a parlé très rapidement du fait qu'il y avait des brioches qui étaient sur la table du studio de France Bleu Loire-Océan. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous nous avez rapporté ce matin ?
Alors aujourd'hui, là, j'ai apporté des hot cross buns, donc, comme je disais, qui est une brioche d'origine anglo-saxonne avec beaucoup d'épices, puisque là, on y met de la cardamome, de la cannelle, de la muscade, de la coriandre également, et puis des pépites de chocolat et des écorces d'orange et de citron. Donc c'est vraiment la période de Pâques, ça, normalement on n'en retrouve pas en dehors de cette période. Là j'ai amené aussi un kouglof qui n'est pas trop une spécialité pascale, mais voilà, on en fait quand même, et puis j'en ai amené pour vous faire goûter et déguster.
Ah bah avec grand plaisir. Comment ça se fait que cette première brioche que vous nous avez présentée, on la retrouve à Pâques et pas nécessairement aux autres saisons, Éric Marché ?
Bah ça reste très traditionnel. Voilà, c'est la période où on sort ce type de gâteau, la colomba ou l'agneau pascal, qui sont des spécialités qu'on va retrouver exclusivement normalement à Pâques. Après, libre à chacun de le faire tout au long de l'année s'il y a la demande, mais à cette période-là, on aime aussi un petit peu sortir des sentiers battus, puis reproposer des choses. C'est bien aussi d'attendre un an pour retrouver ce genre de parfum et de goût.
Évidemment, on prend toujours plaisir à redécouvrir, en tout cas. En fait, voilà. Plus le temps passe, plus on prend plaisir à redécouvrir. Comment on peut expliquer le fait que cette tradition de la brioche, à Pâques, qu'elle se soit un petit peu perdue ?
Je ne sais pas si elle est vraiment perdue. Je pense que les gens sont surtout attirés par le chocolat. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'offres en termes de chocolat, y compris chez nos amis chocolatiers qui travaillent depuis déjà pas mal de temps sur la préparation de cette fête. Chez les boulangers, on prépare, mais comme on est tenu par la fermentation, c'est que cette préparation va se faire au dernier moment. Donc, on en amène un petit peu dans nos magasins, dans nos boutiques, dans les 15 jours qui précèdent Pâques pour que les clients retrouvent un petit peu ses parfums et ses goûts. Mais on n'en fait pas toute l'année, voilà.
Et nous, bien, on va goûter tout ça, tout ce que vous nous avez rapporté ce matin, Eric Marché. Vous, vos recettes chez vous, qu'est-ce que vous faites pour Pâques? 02 40 73 6000, racontez-nous, on vous attend. Viva la vida, Coldplay, en ce jeudi matin à 10h15. On parle de Pâques et de la transition de Pâques en boulangerie et en pâtisserie avec notre invité ce matin, Eric Marché de Pain, Beurre et Chocolat. Et avec vous, bien évidemment, et vos recettes au 02 40 73 6000. Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Vous nous appelez du Poiré-sur-Vie. Tout va bien chez vous? Le soleil brille.
Oui, c'est très beau. Là, on a un beau soleil.
C'est ça, on va en profiter quand même aujourd'hui.
Oui, oui. Voilà, moi j'habite la Vendée depuis 22 ans, mais je suis alsacienne, je suis à Colmar. Donc je suis à fond sur les traditions alsaciennes. Donc nous, pour le dimanche de Pâques, mes enfants encore actuellement, qui sont grandes maintenant, elles veulent leur petit lamala, c'est les agneaux pascal.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement, pour les auditeurs qui ne verraient pas, ce qu'est le lamala?
Le lamala, c'est un biscuit qui est la base de cette recette, c'est les biscuits de Savoie, qui sont montés et puis qu'on met dans des moules en terre cuite. C'est les mêmes moules que les kouglof, mais seulement en forme d'agneau pascal.
Et vous mettez quoi dans ce lamala?
Dans ce lamala, je fais une base de biscuits comme les biscuits de Savoie. Et je mets ça dedans et puis je le mets au four et je le fais cuire à peu près une trentaine, quarantaine de minutes. Et puis après, on le démoule et on le saupoudre de sucre glacé. Et puis après, on le prend au petit déjeuner.
Ah bah au petit déjeuner, à 10h, à midi.
Ou à 10h, il n'y a pas d'heure. Voilà, il n'y a pas d'heure. C'est une petite brioche qui est en forme donc d'agneau pascal. Et c'est vraiment la forme d'un agneau.
On est vraiment dans la tradition là, Eric Marché.
La pure tradition alsacienne, absolument. C'est absolument délicieux. En plus, c'est très léger.
Oui.
Et ça se déguste effectivement tout au long de la journée ou au petit déjeuner. Voilà. Avec.
Voilà. On peut le faire avec la base de biscuits de kouglof aussi.
Voilà. Les mêmes. C'est des bases de biscuits ou de brioches qui sont assez pauvres comme le kouglof, où elles sont. Oui. On a une mie beaucoup plus serrée.
Voilà. En tout cas, c'est très très bon. Mes enfants qui sont âgés, qui ont la trentaine, quarantaine, et même mes petits-enfants, ils vont venir dimanche de Pascal, le dimanche de Pâques, ils vont réclamer leur petit agneau pascal.
On peut venir chez vous également, Evelyne, nous on est invités.
Il n'y a pas de souci.
On viendra avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup pour votre recette, Evelyne.
Et
restez près de votre téléphone, parce qu'on vous rappelle que pour la meilleure recette, bien évidemment, il y a des cadeaux France Bleu Loire-Océan à gagner. Très belle journée, vous pourrez survivre, Evelyne.
Est-ce que vous voulez je vous donne les proportions?
Ah bah allez-y, tant qu'à faire.
Voilà. Donc pour deux moules d'agneau pascal, deux moules de mouton, il faut 6 œufs.
D'accord.
180 g de sucre semoule. Mm-hmm. 160 g de farine tamisée, 20 g de fécule et une gousse de vanille où on confond et qu'on prenne les petites graines à l'intérieur.
Que vous grattez.
Et puis voilà, il faut bien beurrer, fariner les moules malgré que c'est en terme. Et je ne lave jamais les moules parce que c'est comme la moule à kouglof. Plus il cuit, plus la préparation s'imprègne dedans. On n'a pas besoin de laver. Il faut surtout jamais laver un moule en terre cuite.
Absolument.
Voilà,
quand ça accroche un peu, l'essuyer, mais éviter le passage au lave-vaisselle.
Voilà,
ça,
moi je l'essuie avec un essuie-tout, avec un papier, et puis c'est bon. Je beurre et fariner un moule, préchauffer le four à 190 degrés. Faire monter les œufs avec le sucre et la vanille fendue. Ajouter délicatement la farine et la fécule qui ont été tamisées. Et verser le tout dans les moules aux trois quarts. Pas le remplir de trop, sinon vous avez des surprises dans le four parce que ça monte.
Évidemment.
Cuire 20 à 25 minutes à 190 degrés. Et puis après refroidir. Le refroidissement, le démouler et puis le saupoudrer de sucre glace. Et c'est un régal.
Je vais vous dire, entre votre recette, les brioches qui sont à nos côtés dans les studios, moi ça me donne faim tout ça.
Oui, Evelyne, parce qu'en plus, ce matin j'ai amené des kouglof. Donc vous voyez, on parlait de moules vernissées en terre cuite. C'est vraiment les meilleurs des moules, en tout cas, pour faire ce genre de réalisation.
Tout à fait, oui. Voilà.
On a noté tout ça.
Une bonne journée.
Merci beaucoup, Evelyne. Très belle journée à vous également. Au revoir. Direction Les Luxes sur Boulogne. Tout de suite avec vous, Monique. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous avez une deuxième recette à nous proposer, vous, pour Pâques? Qu'est-ce que vous faites?
C'est une recette que je fais tous les ans à Pâques, mais c'est une recette comme une brioche, mais j'appelle ça la foisse, une foisse vendéenne.
D'accord. Pourquoi vous appelez ça une foisse, justement?
J'en sais rien.
D'accord.
Le nom, voilà.
Très bien. Alors, racontez-nous un peu votre recette. Comment est-ce que vous faites tout ça?
C'est facile, je mets un kilo de farine, je prends de la farine à poudre levante, et puis 5 œufs, du sucre, 400 g de sucre, 200 g de beurre, 200 g de crème fraîche, et puis 2 sachets de levure, et puis 2 sachets de sucre vanillé, 2 verres de lait, un demi-verre d'eau de vie, un demi-verre de fleur d'oranger, puis un petit peu de sel fin, une petite pincée. Puis après, je mélange tout ça, quoi, et puis je répartis ça dans 3 moules dans trois moules, je prends des moules, des barquettes alu de 1 litre, là, des grandes barquettes.
D'accord.
Et je mets ça dans trois moules et puis je les mets dans mon four froid. Et je les mets dans mon four froid et à 3-4 degrés, 3-4, 110 degrés, pas plus. Et pendant 1h30 de cuisson, tout doucement, quoi. Et puis après, je vois à l'aide d'un couteau si c'est bien, si c'est pas trop cuit, parce qu'il faut pas la faire trop cuite, autrement elle est dure à manger.
Évidemment.
Voilà.
Je vous cache pas que j'ai vu le regard d'Éric Marché s'illuminer quand vous avez cité dans votre liste d'ingrédients l'eau de vie. Ça vous plaît ce genre de choses?
Oui, parce que ça me rappelle aussi que la foisse, on peut effectivement traditionnellement la servir dans la région nantaise à la rentrée au moment des vendanges, mais également à Pâques. J'avais complètement oublié qu'effectivement on peut faire de la foisse au moment de Pâques, puisque c'est un pain brioché qu'on sert effectivement avec qui est parfumé à l'eau de vie ou au rhum, voilà, qui peut nous apporter quelque chose des souvenirs d'enfance à cette période-là également. Voilà. C'est une belle recette aussi.
Une très très belle recette, Monique. Merci beaucoup pour votre proposition.
Oui. Allez, au revoir.
Et joyeuse Pâques à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, on a cité la foisse, on a eu une recette de tradition alsacienne. Que peut-on faire d'autre à Pâques, chez nous, comme ça, Éric Marché?
Ah bah si on se sent capable de faire de la brioche, c'est de faire une mouna, qui est une recette relativement simple à faire pour cette période-là. En plus, il n'y a pas beaucoup de façonnage, c'est-à-dire que c'est une brioche qu'on va bouler simplement.
D'accord.
Et qu'on va pouvoir cuire au four à la maison de façon simple.
De quoi on va avoir besoin pour cette
mouna? Je vais vous donner, parce que je ne l'ai pas tout à fait en tête quand même, je vais vous redonner la recette détaillée. Voilà. Le temps que
la page s'ouvre.
Voilà, alors on va partir pour faire donc une mouna. On va partir sur 1 kg de farine, par exemple, ça vous en fera plusieurs. On va partir sur 200 g d'œufs entiers, 200 g de sucre, 25 g de levure de boulanger, que vous pouvez demander à votre boulanger.
C'est toujours meilleur de toute façon,
c'est préférable, on va dire.
Oui.
25 g de levure de boulanger, une petite pincée de sel quand même pour relever le goût. Du lait, on va prendre 230 g de lait. Et puis, on peut la parfumer avec des zestes de citron. Ah. On va rajouter à peu près 50 g de zeste de citron qu'on aura râpé.
C'est toujours formidable de rajouter des agrumes comme ça sur les brioches,
en tout cas l'incorporer à la pâte, c'est toujours mieux. Ça va vraiment donner du goût à cette brioche et puis de la fraîcheur surtout. Voilà, donc il faut pas hésiter. Alors sur le pétrissage, c'est toujours un petit peu compliqué quand on pétrit une pâte. Alors si on a un robot, c'est un peu plus facile, mais sinon à la main, il suffit donc de creuser un puits dans sa farine, d'y incorporer les œufs et le lait, et puis de commencer à malaxer ça tout doucement. Pas incorporer les liquides d'un seul coup pour faciliter le travail, et puis pétrir jusqu'à ce que la pâte se détache du plan de travail. Et là, il n'y a pas besoin de moulage. On va la mettre dans un saladier qui aura été légèrement fariné, et on va la laisser doubler ou tripler de volume.
Ah oui, quand même, faut que ça prenne.
Mais alors, ça, faut le faire tranquillement la veille. On la met au frigo, elle va doubler de volume. Le lendemain matin, on la reprend. On la reboule légèrement et puis là, on va la mettre au four à 180 degrés. On va la cuire pendant 20 à 30 minutes. Au préalable, avant de la passer au four, on aura pris un peu d'œuf pour dorer la mouna. Mm-hmm. Et puis, on aura cassé des morceaux de pierre à sucre qu'on aura disposé dessus et qu'on aura légèrement enfoncé. Et puis ensuite, il faut sortir et déguster.
Et si vous n'avez pas pris le temps ou pas eu le temps de noter cette recette, ne vous inquiétez pas, rendez-vous sur francebleu.fr dans les toutes prochaines minutes. Allez, une dernière recette chez vous que vous nous proposez au 02 40 73 6000. On prend la direction de Nantes. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Alors dites-nous, que faites-vous pour Pâques?
Moi je fais de la gâche.
Ah, tout simplement.
Et de la vraie gâche vendéenne.
C'est-à-dire de la vraie gâche?
Eh ben pas de la gâche qu'ils nous vendent dans les supermarchés qui est molle comme de l'éponge là. une vraie gâche tartine avec du beurre ou de la confiture.
Mais
et
évidemment.
Ça sent le petit-déj.
Alors comment vous la faites votre vraie gâche, Nicole?
Il faut faire avec du pain de campagne en général, il faut faire un levain en fait au départ. Et puis après, continuer sur comme une brioche, quoi. Voilà.
Mm-hmm.
Bon, je vais pas vous donner tout parce que bon, c'est long, hein. Mais voilà, il faut
on va l'idée au lait ou à la crème.
Il faut le faire dire.
Ah.
Il faut que la gâche soit ferme, presque comme du pain.
Éric Marché, vous posez une très bonne question.
Au lait ou à la crème le
les deux, mon... Non, à la crème, je ne mets pas crème. De lait.
Bon, donc c'est une vraie gâche vendéenne, pure oui. gâche vendéenne.
Oui,
on effectivement, il ne faut pas que ça soit de la brioche, la gâche. On est bien d'accord. Hein.
On est bien d'accord, vous êtes au courant aussi.
Ah oui, il faut que ça soit une.
Ça me gonfle quand je vois les soi-disant spécialités vendéennes, ces gâches qui vendent, mais les gens doivent dire ah, c'est ça la gâche. Ah ben bon, bonjour.
Et normalement, si vous allez chez un boulanger, un artisan boulanger en Vendée, puisqu'il y a maintenant une zone d'appellation protégée pour la gâche, vous devez avoir de la vraie gâche.
Hein, il n'y en a pas beaucoup, parce que même dans les super boulangers, quand je vois de la gâche, elle est molle. À part dans le vieux marché au sable, en haut, là, une petite grand-mère qui l'a fait elle-même. Sinon, toutes les autres, c'est... À Hollande, il y en avait un qui le faisait bien, à peu près.
Ouais. Alors, à tel point que la gâche, c'est une pâte ferme, comme vous dites, on est obligé, normalement, quand on la met au four, de la fendre deux fois avec la lame du boulanger. Alors, la première fois, juste quand on l'enfourne, et après 20 minutes de cuisson, on ressort la gâche et on la recoupe une seconde fois pour qu'elle se développe bien.
Ça fait du bien comme ça de retrouver ces vraies traditions de la vraie gâche vendéenne. Merci beaucoup en tout cas Nicole pour votre recette et très belle journée à Nantes. On a eu trois recettes ce matin, une tradition alsacienne, de la foisse et de la gâche vendéenne. Alors question, à qui donne-t-on ce magnifique tablier France Bleu Loire-Océan?
Ah, compliqué. Je partirais moi sur la deuxième recette parce que l'agneau pascal, on est plus sur du biscuit. Bon, la gâche vendéenne, c'est quelque chose qu'on retrouve plus couramment, donc plutôt sur la recette de c'était Monique, je crois.
C'était Monique, en effet.
Donc je serais plutôt sur cette recette.
Eh bien, félicitations à Monique qui gagne son tablier France Bleu Loire-Océan ce matin. Et merci beaucoup à vous, Eric Marché, d'être venu dans nos studios ce matin pour nous parler de cette tradition de Pâques et de nous avoir, comme d'habitude, rapporté de magnifiques choses. On va encore se régaler ce matin grâce à vous. Merci beaucoup, très belle journée.
Au revoir.
Comprendras-tu, ma belle, qu'un jour fatigué, j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour.
L'autre Finistère, les Innocents à 10h30 sur France Bleu Loire Océan. Elle nous a rejoint dans les studios. Cathy Kerzero, bonjour.
Bonjour Simon.
On va continuer dans la tradition de Pâques avec vous ce matin.
Parce que là, il y avait la boulangerie, le kouglof. Comment ça s'appelle là, le truc avec la cannelle et tout, qui vient d'Angleterre, c'est
cross,
ça
Oh là là.
Enfin, c'est bon, hein, c'est bon.
En tout cas, c'est très bon là, avec toutes ces épices, la cardamome, la cannelle, c'est juste formidable.
Ouais, c'est excellent. En plus, c'est magnifique.
Ouais.
Donc, tradition, dans quelques instants, quand on pense à Pâques, on pense à l'agneau. Donc
évidemment.
Voilà, l'agneau de Pâques. On le cuisine comment? On verra ça avec Anthony Louera, qui est boucher au marché de Talensac.
À tout de suite.
Simon Hins, sur France Bleu Loire-Océan, la vie en bleu.
La sélection livre de France Bleu Loire-Océan, des orties et des hommes, les souvenirs de Paola Pigani que nous recommande la librairie L'Odyssée à Valette. À lire également Les Mal-aimés de Jean-Christophe Tixier, une intrigue haletante qui mêle fiction et réalité, coup de cœur de la librairie Parchemin à Saint-Florent-le-Vieil. À découvrir 8h15, 17h15, ce week-end sur France Bleu Loire-Océan.
Votre Europe avec Radio France. Toutes les radios de Radio France se mobilisent pour les élections européennes. Éclaircissement, décryptage et analyse sur l'Europe et les enjeux du scrutin. Retrouvez sur l'application mobile Radio France une rubrique spéciale Votre Europe qui vous donnera accès à la réécoute d'une sélection de programmes. Votre Europe avec Radio France.
Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Sylvain Mougenot, à Chambéry, nous dit pourquoi.
J'ai une bonne écoute déjà au départ. J'aime bien des lunettes discrètes, donc on va forcément aller chercher des montures qui correspondent à ce type-là. Et après, ils vont peut-être oser aussi des choses. Tiens, c'est peut-être discret, mais regardez, là, c'est peut-être un peu plus marqué. Et après, en regardant, on dit oui, effectivement, ça fonctionne, quoi. Bon, en fait, on me guide dans mes besoins et tout ce qu'on me propose me va. C'est vraiment du conseil et le conseil est toujours à propos. En plus, mon opticien m'a parlé de l'objectif zéro dépense et c'était franchement une bonne surprise, quoi.
Thierry Husseil, l'opticien Optique 2000 de Monsieur Mougenot, à Chambéry.
Pour nous, le plus important, c'est d'accompagner nos clients dans le choix des montures, mais aussi et surtout dans le choix des verres, en leur proposant les dernières technologies, tout en respectant leur budget. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, on gère tout pour nos clients.
Alors, monsieur Mougenot, content d'Optique 2000?
Complètement. Et en plus, je ne me suis occupé de rien.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. À Nantes, de la butte Sainte-Anne à Doulon, de la Beaujoire au pont de Pyrmile.
France Bleu Loire Océan. On est bien ensemble. France Bleu.
On fait la route ensemble, un point noir sur vos routes actuellement, sur la Nationale 171, entre Montoire de Bretagne et Saint-Nazaire. C'est compliqué sur plus de 3 km ce matin depuis le début de la matinée. Donc soyez patients sur ce secteur, sinon ça roule bien partout ce matin. On continue de parler de la tradition de Pâques avec Cathy Kerzero. On a de la brioche, on a de la pâtisserie, on parlait de chocolat en début de semaine.
Donc les œufs au chocolat.
Voilà.
Qui dit les œufs au chocolat dit les cloches.
Oui, bah
qui
oui.
vont arriver de Rome. Voilà.
Et qui dit les cloches dit l'agneau.
Exactement, puisque voilà, c'est vraiment traditionnel. C'est le mets qui est cuisiné pour Pâques, donc c'est le fameux agneau pascal. Mm-hmm. Alors tradition chrétienne à l'origine, oui. tradition culinaire, gourmande aujourd'hui, pour laquelle il me fallait un spécialiste. Je suis donc allé rencontrer Anthony Louera, qui est boucher au marché de Talensac.
Alors l'agneau de Pâques, aujourd'hui nous en rayon, on travaille un agneau fermier label rouge de Poitou-Charentes, donc quelque chose de très qualitativement au niveau de l'élevage et le choix des races. Pour la petite info, l'agneau a besoin de maturation parce qu'on a tendance à parler que de la maturation du bœuf, mais l'agneau a besoin d'être maturé aussi pour attendrir les chairs.
Maturé, ça veut dire quoi exactement?
Alors, c'est le temps d'entreposage qu'on a nous dans nos frigos pour détendre un petit peu les chairs et puis pour exaucer un petit, plus les goûts et les saveurs des pièces. Donc on va maturer un peu plus des pièces un peu plus épaisses comme les gigots, un peu plus que des côtes. Voilà. Donc les différents morceaux qu'on peut trouver, pour Pâques, on a forcément le gigot traditionnel. On peut décliner soit un gigot entier, soit un gigot rôti sans os, ou raccourci si on est un peu moins nombreux. On a l'épaule d'agneau, là qui est plus pour 4-5 personnes. Donc on peut faire bien souvent rôtir ou aussi confire comme le gigot. Le carré de côte d'agneau. Qui trouve vraiment sa place. Et on peut faire aussi des déclinaisons sur des morceaux comme les noisettes d'agneau. Donc c'est la côte filet entièrement désossée en rôti. Et là, on est sur un rôti d'agneau avec une chair de viande très très fine. Donc assez sympa à travailler.
Cuisson à cœur, cuisson rosée.
Oui, l'agneau, on est vraiment sur une cuisson rosée. Donc on va adapter suivant le poids. Nous, on est là pour conseiller et orienter suivant le poids, la pièce de viande choisie. Vraiment le temps de cuisson optimal. Donc on peut le faire forcément rosé traditionnel et partir sur des cuissons vraiment basse température, les gigots de 7 heures. On peut faire exactement la même chose sur des souris d'agneau ou sur des épaules. Attention les souris, ça court pas les rues, les vrais. vraies. Les vraies françaises.
C'est quoi la souris d'ailleurs?
Alors la souris d'agneau, c'est le morceau de choix, c'est la partie, c'est un peu le jarret du gigot. C'est un morceau qui est très parfumé. Quand les confits, c'est une par personne. Et si des agneaux français traditionnels, eh ben il y en a pas beaucoup. Donc attention de la provenance.
C'est vrai que c'est très très à la mode. On en voit beaucoup, même dans les restaurants. Et si on veut faire de la souris d'agneau, ça se commande quoi.
Ah ouais, là faut forcément anticiper. Puis il y aura des limites dans chaque boucherie sur les quantités. Donc ça sera certainement des fois les premiers commandés, premiers servi.
Et donc sinon, si on envoie beaucoup de souris d'agneau, faut s'inquiéter, a priori ça vient hors de France quoi.
Bah, faut titiller peut-être un petit peu votre boucher pour vraiment être sûr de la provenance, parce que des souris vraiment françaises sur des élevages traditionnels comme on a, on peut pas aller à l'infini. Dès qu'on en a en quantité, forcément Nouvelle-Zélande, UE, mais bon, après pourquoi pas, mais il faut le savoir.
L'actualité, c'est Pâques, c'est le fameux gigot, on va dégainer les flageolets, enfin, on va jouer la tradition. On pense aussi ensuite à l'agneau avec le barbecue.
Ah ben là, on va arriver. On a déjà commencé les grillades avec le temps. Donc nous, on s'adapte vraiment à la météo. Donc on va forcément sur les petites côtes à griller, les épigrammes d'agneau. Donc c'est la poitrine d'agneau entièrement désossée, dégraissée, marinée. Donc un morceau très goûté, très moelleux. Les brochettes d'agneau, donc qui peut être sympa. Et puis après, on fait plein de choses. Les tranches de gigot revisitées un petit peu pour la grille. Les épaules d'agneau sans os, pareil à la tranche marinée ou pas. Donc vraiment l'agneau à griller, c'est formidable.
Et à ceux qui disent que l'agneau c'est fort, ah que répondez-vous?
Non, non, non. On ne travaille vraiment pas du mouton, on travaille que sur des jeunes agneaux qui ont 4-5 mois, donc une finesse de chair, un grain de viande qui est super fin, une viande parfumée mais pas forte.
Ah bah voilà. C'est tout doux l'agneau, hein. Enfin, en tout cas un vrai agneau, je pense que voilà. Personnellement je connais rarement, enfin, j'ai rarement vu de viande plus douce qu'un agneau.
Mais voilà, c'est vrai que ça a du goût et il y a des personnes qui n'aiment pas ce goût-là de l'agneau. En tout cas, l'agneau de Pâques, on l'aura compris, ça donne envie. On a parlé mardi des petites pommes de terre de Noirmoutier.
Oui. Hein,
vous imaginez ça avec la petite sirtema là de Noirmoutier.
Oh là là là.
Puisqu'on parle de pommes de terre primeur, moi ça me fait aussi penser à un plat qui est fétiche là en avril-mai, c'est le navarin. Mm-hmm. Donc quelques bottes de jeunes navets et puis de l'agneau. Et puis bah merci en tout cas Anthony Louera, donc artisan boucher, on le rappelle, au marché de Talensac.
Et merci à vous Cathy, on se retrouve demain à la même heure. On fait un anniversaire.
Voilà
demain.
Le 4e anniversaire des saveurs détonnantes avec Amélie Saillet.
Et avant tout cela, on vous retrouve à partir de 17h à 17h-19h. Et quel est le programme ce soir?
Ah, c'est un programme qui est sublimissime. Attention, je peux vous en parler pendant des heures.
attendez un peu.
Non, allez,
deux petits mots.
En quelques mots, c'est une kiné qui travaille à l'Institut des Hautes-et-Baudières à Vertoux. Mm-hmm. Et qui, depuis 12 ans, emmène des non-voyants, des malvoyants dans le désert. Puisque dans le désert, le handicap, entre guillemets, est un peu gommé. Il y a un film qui a été réalisé et ce soir, elle vient avec plusieurs jeunes qui sont non-voyants et qui vont raconter cette expérience. Donc je pense que ça va vraiment être très, très chouette et très fort.
On sera là en tout cas. À tout à l'heure, Cathy.
À tout à l'heure.
Et nous, dans les toutes prochaines minutes, eh bien, on va s'intéresser à quelqu'un que vous avez rencontré également, Cathy Kerzéro. Paul Samonos, c'est votre portrait de la semaine dans Les gens d'ici, qui a sorti un livre, un petit livre absolument magnifique, Le charme discret des petits trous.